Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. L'exposition universelle d'Osaka 2025 a ouvert ses portes ce 13 avril pour une durée de 6 mois. À l'heure où les équilibres géopolitiques vacillent en Asie, où les barrières douanières font le yo-yo aux portes des États-Unis, le Japon ouvre les bras au monde entier pour dessiner les contours de la société de demain. Que peut une exposition universelle face aux incertitudes géopolitiques ? À une époque où certains États utilisent la force pour changer le statu quo et où le leadership américain apparaît moins prévisible, le Japon s'impose comme un acteur majeur de la région Indo-Pacifique et de la nouvelle géopolitique mondiale. Discrète, Tokyo contribue pleinement à la dynamique des relations internationales contemporaines, forte d'une diplomatie d'influence centrée sur les valeurs libérales, la coopération entre États et le respect du droit international. Un soft power qui n'empêche pas la renaissance d'un certain militarisme, nous en parlerons. Quelle place pour le Japon dans la région Indo-Pacifique ? Quel rôle pour Tokyo dans la préservation des grands équilibres du monde actuel ? Quel défi face aux attaques à la fois de la Chine, la Russie et les États-Unis, sans compter la Corée du Nord ? Pour cette édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro a pour titre « Le Japon et les métamorphoses de la puissance », nos invités par téléphone, Valérie Niquet, directrice du programme Japon à la Fondation pour la recherche stratégique, auteure de « Le Japon en 100 questions » qui vient de paraître dans l'édition poche texto des éditions Talendier. Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
En studio, Guy Bourg de Lamotte, professeur de sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon et autrice de La démocratie au Japon aux éditions ENS et Le Japon, un leader discret aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Et au téléphone depuis Tokyo, Robert Dujarric, co-directeur de l'Institute Contemporary Asian Studies à Temple University au Japon. Bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement japonais fait finalement face à pas mal de critiques et les échos sont assez contradictoires sur l'exposition. Dans le contexte social et économique, je rappelle le thème de cette exposition universelle donc, qui vient de s'ouvrir à Osaka, concevoir la société future pour nos vies avec un accent sur le vieillissement, l'urbanisation, la santé et les innovations durables. L'objectif, c'est d'avoir 28 millions de visiteurs. Quel est écho, Robert Dujarric, à cette exposition universelle aujourd'hui au Japon? Vous êtes vous-même à Tokyo?
Très limité. Honnêtement, je sais à peine qu'elle a lieu. Je crois que c'était très important pour les Japonais, peut-être il y a un peu plus d'un siècle, pour montrer que le Japon existait, qu'il était un pays civilisé, entre guillemets. Ça a été important pour l'expo, peut-être les expos des années 60, montrer que le Japon s'était reconstruit, que c'était devenu une puissance économique importante. Mais maintenant, honnêtement, je crois que c'est quelque chose dont tout le monde ignore même l'existence. Ça n'a aucune importance.
Alors, on peut rappeler que la dernière exposition universelle au Japon s'était passée là aussi, à Osaka, en 1970. La période était une période de prospérité pour le Japon. Il est vrai que de nombreuses critiques portent sur le coût de cette exposition, avec des dépenses qui ont presque doublé, atteignant 1,5 milliard d'euros. Et puis, de fait, les quotidiens japonais rapportent un faible intérêt de la population locale. Guy Bourg de Lamotte, vous avez quelque chose à dire sur cette exposition? Je passerai la parole à Valérie Niquet ensuite.
Je crois que c'est une opération de communication aujourd'hui, cette exposition universelle, c'est-à-dire c'est une vitrine. Je pense que ça marche dans une certaine mesure, en tout cas pour ce qui est d'attirer davantage de touristes, de faire connaître auprès d'un grand public, disons, dans le monde. Enfin, on voit par exemple les couvertures de magazines en France depuis quelques mois maintenant, y compris dans les revues pour enfants d'ailleurs, qui parlent du Japon maintenant. Donc bon, certainement que ça aura un effet en termes de tourisme. Après, bon, c'est pas en effet ce qui vraiment... ça a moins d'importance, disons, aujourd'hui certainement que par le passé. Mais enfin, ça fait partie de ces sortes de rituels aujourd'hui, je crois, qu'assument à tour de rôle les États et qui en effet mettent en doute les populations qui les trouvent relativement fouteux.
Mais il est vrai qu'en termes d'innovation, elles ont un rôle, paraît-il, ces expositions universelles. Je ne suis pas une spécialiste. Valérie Niquet, quelques mots sur l'exposition d'Osaka?
Alors, en fait, c'est un peu comme les Jeux olympiques. On a l'impression que Le Japon veut recréer cette période heureuse dont vous parliez dans les années 60-70, où il était en plein essor et où il s'affirmait à nouveau sur la scène internationale aux yeux du monde après les tragédies de la Deuxième Guerre mondiale. Mais simplement, on n'est plus à la même époque et l'enthousiasme est beaucoup moins là. Quant au tourisme, bien sûr, il augmente considérablement. Il apporte des revenus, mais il suscite aussi beaucoup de critiques, y compris au Japon même. Et enfin, dernier point, les quelques images qu'on a eues, par exemple, d'innovation avec des robots androïdes, mais habillés à l'ancienne. C'est un peu toujours ce Japon qui se veut très moderne, mais il n'est plus le seul aujourd'hui, mais qui se rattache aussi toujours à des éléments de culture très traditionnels, comme si, il ne savait pas très bien trouver sa place, en fait, dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, en termes d'innovation, il y a aussi, c'est un petit détail, mais je le signale, les transports en taxi, drone, entre les sites touristiques d'Osaka. Il est vrai aussi, par ailleurs, que certainement, ces expositions ont un vrai rôle pour le rayonnement culturel et diplomatique du Japon. Et puis, bien sûr aussi, la consolidation de son soft power, un soft power qui pourrait évoluer, on en parlera. Voilà, je pense qu'on en a fini avec cette actualité autour de l'exposition universelle, mais c'était important d'en dire quelques mots. La semaine a été particulièrement mouvementée, Robert Dujarric, avec le revirement de Donald Trump. Je me réfère maintenant à la question des barrières douanières qui font le yo-yo à l'entrée aux États-Unis. Comment est-ce que le Japon, le gouvernement japonais, a réagi sur ce revirement? On évoque une fragilité particulière du Japon au choc extérieur, est-ce que vous confirmez?
Oui, je crois que le gouvernement japonais est très inquiet. Avant tout, ce qui est le plus inquiétant pour Tokyo, c'est la remise en cause des alliances militaires. La politique de défense et de sécurité du Japon est axée sur la crédibilité du parapluie américain. Et ce parapluie, il a disparu depuis que Trump est président. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il n'y a pas vraiment de plan B. Je crois que la version officielle est de dire « nous faisons encore confiance aux États-Unis ». Je pense que les hauts fonctionnaires, les diplomates les plus informés, les plus conscients de ce qui se passe aux États-Unis se rendent compte que ça n'est pas le cas, qu'il faut prétendre que ça existe, mais que c'est un mariage qui, pour l'instant, a été détruit par Trump. Les droits de douane, ça les a évidemment excités et inquiétés, comme tout le monde. Le Premier ministre a nommé un négociateur qui devait aller négocier avec les États-Unis, mais comme Trump a encore une fois changé de politique, il n'y a pas de stratégie. Il y a un très bon article dans le Financial Times, on dit on ne peut pas essayer de comprendre ce que pense Trump parce qu'il n'y a aucune logique. Et il y a surtout, au sein de l'administration Trump, il y a plusieurs camps complètement opposés qui ont des perceptions différentes. Bon, là, visiblement, le marché obligataire a gagné la première manche. C'est-à-dire qu'il a forcé Trump à capituler, comme les Truss en Grande-Bretagne. Mais vous savez, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles. Donc, il y a l'inquiétude, évidemment, mais il ne peut pas y avoir de politique ou de réponse japonaise prête, puisque ça dépend de décisions américaines qui changent tous les jours. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas négocier avec un enfant de 2 ans.
Alors ça, c'est votre commentaire, Robert Dujarric, mais effectivement, je ne pensais pas qu'on ferait remonter les questions de défense et la relation avec les États-Unis aussi vite. C'était essentiellement sur le plan économique, mais évidemment, je me tourne vers vous, Guy Bourdelamotte. On a vu le secrétaire d'État américain à la défense, Pete Hegseth, être en tournée aux Philippines et au Japon en mars dernier, il y a quelques jours. Il a insisté sur une éthique du guerrier commune entre les États-Unis et le Japon, tout en annonçant le renforcement du nouveau quartier général des forces américaines au Japon, destiné à faciliter les opérations conjointes nippo-américaines. Alors, Robert Dujarric semblait enterrer d'entrée de jeu l'accord qui existe aujourd'hui et depuis longtemps entre les États-Unis et le Japon. La réalité va aussi vite que...
Alors, j'ai une vision un petit peu plus nuancée peut-être, ou en tout cas un peu différente. Je pense qu'il y a une crise de confiance en effet, mais qu'elle a été épisodique et même toujours un petit peu présente, somme toute, cette crise de confiance. Il y a toujours une part de doute dans une alliance. Mais à mon sens, l'alliance n'est pas du tout remise en question par Trump. En effet, donc, vous le disiez, le secrétaire d'État à la Défense était au Japon il y a quelques jours, a renouvelé en fait les engagements pris précédemment. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un changement là qui se profile avec les forces américaines ancienne basée au Japon qui devienne un quartier général opérationnel rattaché au commandement Indo-Pacifique des États-Unis, ce qu'elle n'était pas auparavant. Elle était uniquement une organisation administrative en fait. Et dans le même temps, côté japonais, eh bien, un commandement interarmée opérationnel se met en place pour être son interlocuteur direct. Et cette évolution n'a pas du tout été remise en question. On a vu dans le premier mandat avec, de Donald Trump, l'alliance continue à progresser sur tous les niveaux. Des dialogues dans le domaine du cyberterrorisme, de la cybersécurité, de l'espace. Et la relation avec Donald Trump, en fait, a été très favorable sous son premier mandat avec Abe Shinzo. Donc, Donald Trump a une impression plutôt bonne du Japon et le Japon n'a pas une impression trop défavorable de Donald Trump. Alors évidemment, l'annonce des tarifs au Japon comme ailleurs a été un coup, parce que au Japon comme ailleurs, on espérait en fait être exempt parce qu'on était alliés. Et là, je crois qu'il y a une sorte d'erreur d'interprétation, c'est-à-dire que dans l'esprit de Donald Trump, enfin si tant est qu'on puisse l'interpréter en effet, il n'y a pas de lien entre les deux domaines, c'est-à-dire que l'économie n'est pas liée aux politiques. Et donc, on l'a vu s'engager dans l'Indo-Pacifique, on l'a vu s'engager dans l'Alliance nippo-américaine, dans un soutien à Taïwan, mais ce n'est pas pour autant qu'il épargne ses interlocuteurs, qu'à mon avis, il considère toujours comme des alliés et comme de très bons alliés dans le cas du Japon, de sa politique tarifaire. Et je ne verrais pas un revirement dans sa politique tarifaire non plus, parce que, en fait, ce qu'il a dit, il a plutôt suspendu en fait ces mesures pour 90 jours à l'égard des États qui en fait ont accepté le principe de la négociation. Ce qui n'est pas du tout irrationnel, ce n'est pas une capitulation à mon sens. Il poursuit dans sa logique, mais il encourage les négociations. Alors il n'y a peut-être pas de stratégie, c'est peut-être une des réactions au coup par coup, c'est peut-être, mais, et donc c'est très difficile à lire pour les interlocuteurs et très déstabilisant parce que ce ne sont pas du tout des tactiques classiques et on n'est pas du tout dans le registre de la diplomatie dont on avait l'habitude avec le triomphe en fait de notre du monde avec des valeurs libérales, enfin comme on l'avait vu depuis la fin de la guerre froide. Incontestablement, il fait bouger les lignes, incontestablement, il gêne énormément, mais il cherche à le faire dans un sens qui n'est pas toujours celui dont on a l'impression. Enfin, c'est pas un chaos absolu, à mon avis.
Alors, on peut rappeler, et je vais vous faire agir là-dessus, Valérie Niquet, que Monsieur Ishiba, précisément, donc Premier ministre japonais, a été le deuxième dirigeant d'un pays étranger à être reçu à la Maison Blanche après l'investiture du président américain et qu'il avait promis. Et donc, effectivement, la hausse des barrières avait été très mal, donc en repos pour 90 jours. On va voir ce qui se passe après. Mais en tout cas, Monsieur Ishiba était arrivé à Washington avec une promesse de 1 000 milliards de dollars d'investissement des entreprises japonaises aux États-Unis. Et donc, les 25% de droits de douane supplémentaires pour tous et surtout les véhicules avaient été particulièrement mal perçu. Et on peut rappeler que le Japon est le premier investisseur direct aux États-Unis. Quelques commentaires, Valérie Niquet, sur cet aspect économique des choses, peut-être ?
Oui, alors, et notamment, le Japon s'est engagé dans un projet, avec la Corée du Sud d'ailleurs, qui avait toujours paru assez peu viable aux entreprises japonaises, qui est de construire un gazoduc dans la que réclamait Donald Trump. Donc, le Japon agit lui aussi en essayant de faire des deals, c'est-à-dire en promettant beaucoup et en espérant apaiser la bête, entre guillemets, dans ses négociations avec Donald Trump. Les taxes qui avaient été annoncées, et je ne sais pas si elles ont été toutes levées, mais notamment celles sur l'automobile, ont beaucoup inquiété Tokyo dans la mesure où l'industrie automobile au Japon, c'est plus de 28% des exportations japonaises avec un marché américain absolument essentiel. Et surtout, c'est une menace sur une forme de stabilité sociale. Alors, le Japon n'est pas la Chine. Il est beaucoup plus stable et cohérent que le régime chinois, où il y a d'énormes problèmes aussi autour de ces taxes. Mais tout de même, comme l'a déclaré un responsable du PLD récemment, M. Onodera, il irrigue tout le territoire du Japon avec notamment les sous-traitants. Et si vraiment l'industrie automobile japonaise s'effondrait, il y aurait des risques non seulement économiques, mais sans doute de stabilité sociale dans l'archipel. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave. On a dit une forme d'opposition à M. Ishiba au Japon même l'accusait de ne pas faire grand-chose finalement, de ne pas savoir s'imposer face à Donald Trump. Il semblerait, mais je n'en suis pas certaine, que le Japon, qui est le premier détenteur de bons du trésor américain, ce n'est pas la Chine, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, eh bien, aurait commencé à se délester d'un certain nombre d'éléments et que ça aurait aussi fait réfléchir Donald Trump. Alors, il faut confirmer ça, c'est ce que disait Fox News, ce n'est pas forcément la source d'information la plus solide, mais le Japon a tout de même des armes face aux États-Unis.
Le Japon a des armes face aux États-Unis. On va parler de la relation avec l'OTAN dans quelques instants. Je vous entends, Guibourg de la Motte, chantonner ou intonner cette chanson de Masako Ota, qui est dite Meiko Kaiji, qui est une actrice et une chanteuse d'enka japonaise. Vous la connaissez ?
Oui, oui, c'est une chanson magnifique qui parle de neige et de femmes et de larmes qui s'en vont dans le vent, enfin, etc. Donc elle est très très belle. Il me semble qu'elle avait été utilisée par Quentin Tarantino dans un deuxième qu'il fait, il me semble.
Alors c'est confirmé par Mathias Golshani, qui est de l'autre côté de la vitre. Alors, un peu plus sérieusement, mais c'est bien d'avoir ces petites notes qui nous replacent un peu dans la culture des émissions que nous abordons en accord avec nos thèmes. Robert Dujarric, on a évoqué la visite en mars de Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui était en tournée aux Philippines et au Japon. Plus récemment, cette semaine, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, était au Japon où il a visité une base navale et une usine de défense. Un rapprochement du Japon vers l'OTAN, qu'est-ce que l'on sait des éventuels termes de ce rapprochement ?
Oui, c'est quelque chose qui intéresse le Japon depuis quelques temps. Je crois que le gouvernement japonais a été plus choqué, plus traumatisé par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 22 que ce qu'on aurait pu croire le lendemain en février 22. Et donc, ils ont vu ça vraiment comme potentiellement très déstabilisateur. Aujourd'hui, l'Ukraine, demain, Taïwan. Donc, le Japon a fait plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il n'en a pas fait assez, mais c'est le cas aussi de l'Europe, c'est le cas des États-Unis. Personne n'a fait assez sinon l'Ukraine aurait gagné en quelques mois. Et donc, il souhaite renforcer ses liens. C'est évidemment plus fort, plus important maintenant, avec quand même la question qui se pose aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est pas seulement... Bon, il y a le ministre de la Défense vient là, mais il y a la question, c'est aussi la qualité de l'outil militaire américain. Vous comprenez, la semaine dernière, une influenceuse d'extrême droite qui pense que le 11 septembre était un complot de la CIA, va voir le président limoge le patron de la National Security Agency, qui est une des plus grandes agences de renseignement. Donc vous vous demandez aussi ce qui se passe chez votre allié. Donc je crois que c'est évident que le Japon, comme les pays de l'OTAN, essaye de voir ce qu'il peut faire un peu pour maintenir les structures. Le Japon peut contribuer très peu à la sécurité de l'Europe, et l'OTAN, enfin les pays de l'OTAN hors États-Unis, ont des capacités de déploiement de force qui sont très limitées en Asie. Donc, ça ne permet pas vraiment, entre guillemets, de remplacer les États-Unis. Mais ça fait partie des projets. Le Japon développe un avion de combat avec l'Italie et la Grande-Bretagne. Peut-être que l'Arabie saoudite se joindra au projet. Donc, ça fait partie de ce qu'on pense. Mais je pense que à Tokyo, on espère évidemment que l'alliance avec les États-Unis se maintiendra, mais rien n'indique que ce sera le cas. Et il y a quand même un gros problème de crédibilité.
Guibourg de Lamotte, on l'a dit, Robert Dujarric l'a dit, le Japon scrute de près ce qui se passe en Europe. Est-ce que vous voyez quelque chose de commun dans la recherche d'autonomie stratégique du Japon et le concept d'autonomie stratégique que la France a placé au cœur de la défense européenne ?
Oui, certainement dans une certaine mesure. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, le Japon, depuis 1999, à peu près 2001, se rapproche de l'OTAN. Mmh. Donc ça, c'est une évolution de long terme, disons. Et depuis au moins le premier mandat d'Abe Shinzo, c'est-à-dire en 2006-2007, le Japon se tourne vers d'autres partenaires que les États-Unis pour appuyer l'alliance, en fait, c'est-à-dire pour la doubler de réseaux supplémentaires, de liens supplémentaires. Avec sa vision pour un océan Indo-Pacifique libre et ouvert depuis 2016, l'approche qu'il a mise en évidence, le Japon, est bien une approche par laquelle plus on est nombreux à coopérer, plus on peut contrebalancer la Chine. Coopération à la fois économique ou pour assurer la connectivité donc, des pays du Pacifique Sud, par exemple, donc économique au sens sécurité économique également. Donc c'est vraiment une approche par laquelle l'Union fait la force. Et donc ce ne sont pas des alternatives qui sont envisagées, pas une alternative aux États-Unis, mais bien, disons, une coopération qui peut suppléer, qui peut appuyer. Alors c'est vrai que là, il est question de coopération industrielle, ce qui est intéressant. Le Japon, Robert le disait, a ce projet d'avion de combat avec le Royaume-Uni déjà. Mmh. Donc là, effectivement, c'est une forme, comment dire, de... On ne peut pas dire que ce soit une émancipation, puisqu'avec l'OTAN, tout est en fait tout à fait interopérationnel, compatible avec tout ce qui est américain, et même n'existe pas en dehors des États-Unis. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui viendrait à la place des États-Unis, mais bien dans quelque chose qui peut appuyer, qui peut suppléer. Et ça, c'est d'ailleurs, en fait, en réalité, assez ce que souhaite Donald Trump aussi, puisqu'il appelle ses alliés, en fait, à dépenser plus. C'est ça qu'il veut.
Donc, ce que le Japon a promis de faire, pardon, je vous interromps, là aussi, 2% du PIB japonais en 2027.
C'est ça, absolument. Donc, une augmentation progressive dont on ne sait pas encore très bien comment elle sera ni financée, ni à quelle fin, disons, vers quel type d'armement. Précisément, une partie de cette augmentation devrait bénéficier aux États-Unis, ce qui est également tout à fait ce que souhaite ou ce qui est susceptible de souhaiter Donald Trump. Et je pense que c'est tout à fait similaire à ce qu'on peut voir en Europe, au sens où on ne peut pas envisager vraiment une autonomie stratégique de l'Europe sans les États-Unis à ce stade. Donc, je ne sais pas très bien si par autonomie stratégique de l'Europe, on entend une indépendance des États-Unis. Je crois qu'on s'aliène une partie de l'Europe. Donc, il me semble qu'au final, ce qu'on entend par autonomie stratégique est en effet de fait assez similaire à ce que le Japon entend aujourd'hui par autonomie stratégique. C'est-à-dire, on est avec les États-Unis, mais néanmoins, on ne compte pas sur eux pour faire le travail complètement. Et ça aussi, c'est ce que Donald Trump veut voir, en fait, si j'ai ce rôle désagréable d'être l'interprète de Donald Trump. Mais il me semble que c'est ce qu'il souhaite voir ses alliés faire, c'est-à-dire prendre une part plus active à leur défense, de Taïwan au Japon, pour qu'en effet, les États-Unis ne soient pas en fait les seuls à financer l'effort, alors qu'ils apportent déjà les technologies.
Alors, on parlera de la façon dont ce débat a cours au sein de la population japonaise. Avant ça, Valérie Niquet, j'ai cette question. Il y a un accord de partenariat en matière de sécurité et de défense qui a été signé en novembre dernier entre l'Union européenne et le Japon. Qu'est-ce que l'on sait de cet accord et en quoi est-il important ?
Alors, ce qui est important, c'est à la fois, on vient de le dire, de développer, de démontrer que le Japon recherche d'autres partenaires et que ses préoccupations stratégiques soient prises en compte. Ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, le Japon s'intéresse beaucoup plus à ce qui s'est passé en Europe après la guerre en Ukraine et à appliquer des sanctions comme le reste des membres du G7. Mais pour le Japon, quand il disait « aujourd'hui l'Ukraine, demain Taïwan », il s'agissait de maintenir absolument cet engagement et cet intérêt des États-Unis, mais aussi de l'Europe et de l'OTAN, pour ses propres questionnements stratégiques dans sa région. Donc c'est une forme de donnant-donnant, en quelque sorte, où le Japon manifeste son intérêt pour l'Union européenne et ce qui se passe en Europe, et en échange, il attend que l'Union européenne, l'OTAN aussi, n'oublie pas ce qui se passe en Asie, parce que la crainte de Tokyo, c'est que finalement tout se concentre sur l'Union européenne ou l'Europe, et qu'on oublie en quelque sorte ce qui se passe en Asie. C'est pour ça qu'initialement, d'ailleurs, le Japon n'était pas du tout hostile à cette idée américaine, alors peut-être pas à ce point-là, mais tout de même, de laisser les Européens s'occuper de l'Ukraine et de se concentrer à nouveau sur les questions asiatiques pour répondre aux dangers qui font face à l'archipel. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il semble que les États-Unis, même si en matière de défense, ils n'ont pas dit qu'ils se désengageaient, en tout cas, leur attitude est incertaine pour tout le monde. Mais effectivement, cette visite du secrétaire général de l'OTAN à Tokyo, c'était aussi destiné à renforcer ce partenariat avec le Japon, qui est un acteur important dans la région, en Indo-Pacifique, mais également, comme l'a dit Mark Rutte lui-même dans une interview, de répondre aux attentes des États-Unis. Donc, les motivations sont extrêmement complexes. Et juste un dernier point sur l'autonomie stratégique. Le Japon s'y intéresse et se pose la question aujourd'hui, mais pendant très longtemps, il a été très hostile à l'idée d'avoir une autonomie stratégique européenne un peu vendue par la France ou le président Macron, en disant que pour lui, le seul partenaire qui compte en Europe, c'est l'OTAN. Reste à savoir ce que va devenir l'OTAN au cas où les États-Unis s'en détacheraient.
Votre commentaire, Robert Dujarric, sur ce que vient de dire Valérie Niquet.
Oui, je crois que Valérie a raison. Ça, c'est le Japon, effectivement, se pose des questions sur ce qui se passe en Europe, sur ce qui se passe en Asie, et que donc maintenant, le monde non-américain joue un rôle plus important dans la vision japonaise de sa sécurité, et que l'idée, dans le sens d'autonomie stratégique, semble un peu plus logique parce qu'en fait, l'autonomie stratégique, à une époque, elle était voulue par les Européens contre l'hégémonie américaine. Maintenant, elle est imposée par les États-Unis qui soit se désengagent, soit, comme on l'a vu en Europe, soutiennent des mouvements d'extrême droite contre les gouvernements européens. Donc, c'est une autonomie imposée et le Japon ne peut que se poser la question de savoir si ça lui arrivera un jour, pas forcément demain. Et en plus, il y a quand même aussi cette question des relations économiques et commerciales avec les États-Unis qui change tous les jours, mais qui est plus dangereuse pour le Japon que dans les années 80, parce que lorsque Reagan a imposé des mesures protectionnistes contre le Japon dans les années 80, le Japon était une puissance ascendante, en croissance, et que maintenant, par exemple, l'affaiblissement ou la destruction de l'industrie automobile japonaise, c'est beaucoup plus grave pour le Japon.
Alors, quelques mots, on rebondit à nouveau sur les questions économiques, peut-être Guibourg de Lamotte, avec finalement, donc on l'a dit au début de cette émission, le revirement de Donald Trump sur les barrières douanières et seules sont maintenues celles avec la Chine. Le Japon peut précisément bénéficier de cette inégalité de traitement entre la Chine et le Japon par rapport à cette question des barrières douanières à l'entrée des produits aux États-Unis.
Alors, je pense qu'en effet, c'est vers quoi on s'oriente là pour le moment, enfin, en croire avec les éléments qu'on a pour le moment. C'est-à-dire que le Japon espère négocier donc, durant les 90 jours qui lui sont laissés, comme à d'autres États donc, qui se sont engagés plutôt dans la voie de la négociation que dans la voie de la réplique par des tarifs accrus. Et donc, il est très vraisemblable hein, que le Japon trouve des moyens d'atténuer, disons, les projets qui ont été avancés au stade initial. Si on regarde ce qui s'est passé lors du premier mandat de Donald Trump, beaucoup de tarifs ont en fait été supprimés assez rapidement, justement parce que des négociations avaient abouti. Il me semble que l'approche n'est pas une approche isolationniste. Là aussi, je crois que peut-être on se trompe un tout petit peu dans nos analyses, c'est-à-dire que cette stratégie tous azimuts qui apparaît très hostile à tous les alliés, elle passe un peu pour, enfin on la translate, disons, dans le domaine stratégique, et je ne suis pas sûre que ce soit pertinent, disons qu'il me semble que Donald Trump n'est pas isolationniste. Sinon, il ne parlerait pas d'acheter le Groenland, il n'obtiendrait pas de se réimplanter dans le Panama,
etc. Il est expansionniste.
Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit non plus. Il est transactionnel. Et donc, là, ce qu'il essaie de faire, c'est maintenir les alliances, à mon avis, parce qu'elles sont tout à fait dans l'intérêt des États-Unis. S'il veut contrebalancer la Chine, il n'a pas du tout intérêt à s'aliéner le Japon, à perdre ce qui était qualifié pendant la guerre froide de porte-avions insubmersible des États-Unis. Il a au contraire tout à fait intérêt à cultiver cette relation et à utiliser, et c'est ce qu'il fait, comme un levier, le rapport de force, et qu'il place. En plus, il y a autre chose qui est susceptible de plaire à Donald Trump dans l'alliance nippo-américaine. américaine, c'est qu'elle est bilatérale. Et il aime les relations bilatérales, manifestement. Il est... Donc l'OTAN, certainement, est une situation un petit peu différente, mais enfin, les États-Unis, ils sont très prépondérants. Et là aussi, on peut penser que c'est tout à fait dans l'intérêt des États-Unis d'avoir cette zone d'influence. Donc moi, je ne vois pas tout ça étant remis, susceptible d'être remis en cause, si ce n'est par la crise de confiance que cela suscite. Bon, je pense que ce qui est susceptible de se passer, parce que ce ne serait pas non plus dans l'intérêt du Japon ou de l'OTAN ou de l'Europe, disons, de chercher à se passer l'appui des États-Unis. Je ne crois pas qu'on le puisse financièrement. On n'a pas les moyens de le faire, tout simplement. Eh bien, c'est un rééquilibrage, c'est-à-dire un investissement plus fort de nos économies qui, de fait, depuis 20 ans, sont autour de 1% consacrées à la défense, parce qu'on a choisi, on a privilégié à la place les dépenses de sécurité sociale et autres, et de protection sociale. Donc, c'est ce rééquilibrage que cherche Donald Trump. Et peut-être que c'est ce qui va se passer. Quelque chose de nouveau se met en place. C'est certainement pas ce qu'on a anticipé, mais enfin, c'est pas pour autant que ce sera, disons, en rupture absolue avec ce qu'on a connu.
Alors, on va revenir dans quelques instants aux questions de défense et de géopolitique. On l'a dit, le Japon recherche d'autres partenaires. Ce qui sera intéressant, c'est de voir comment, plus largement, le Japon se prépare sur le plan militaire. Et est-ce qu'il y a une renaissance, d'une certaine manière, du militarisme japonais? Ce sont les questions que je vous poserai dans quelques instants. Vous aurez reconnu Take Five de Dave Brubeck, mais qui était une version japonaise réalisée et produite par le japonais Minoru Muraoka, qui était un musicien de jazz des années 70. On en revient avec vous, Valérie Niquet, Guibourg Delamotte et Robert Dujarry, que nous parlons du Japon, sur les questions militaires, sur les questions géopolitiques. On l'évoque depuis le début de cette émission. En cas d'attaque de Taïwan, on sait que le Japon serait en première ligne. Valérie Niquet, on a évoqué le fait que le Japon était en recherche d'autres partenaires, on l'a dit. Mais comment le pays, plus généralement, se prépare-t-il à cette éventualité? Et en tout cas, voilà, on voit le Japon sortir de sa doctrine qui prévalait depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui était uniquement de protéger son territoire. On passe à autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, je pense que pour la population japonaise elle-même, la préoccupation principale n'a rien à voir avec ses engagements éventuels ou l'évolution de la politique de défense. Si l'on en croit les sondages, bien sûr, il y a une plus grande prise en compte de la menace chinoise. Il n'y avait pas une hostilité au départ sur l'augmentation du budget de la défense. En revanche, il n'y a aucun accord pour l'augmentation des impôts. Et ce qui compte pour les populations, la population japonaise d'une manière générale, c'est la question du niveau de vie qui stagne, la question de l'inflation, les inquiétudes autour des enjeux économiques qui sont extrêmement prégnants. Alors, il y a deux camp qui s'exprime beaucoup plus et qu'on entend, mais qui ne représente pas encore une fois l'ensemble de la population japonaise. C'est d'un côté des gens qui sont favorables à ce que le Japon véritablement s'engage beaucoup plus en matière de défense, acquiert même pour certains une forme d'autonomie, de capacité, se libère en quelque sorte de la tutelle américaine, mais ça n'est pas du tout la majorité ni dans la population, ni au sein d'ailleurs du gouvernement japonais, surtout aujourd'hui. Et puis l'immense majorité, elle, je crois, reste très tentée par une forme d'isolationnisme et surtout ne pas se trouver entraînée malgré soi dans les tourments du monde. Un pacifisme qui est encore très prégnant, dans la mesure où c'est le fondement même de l'éducation des Japonais depuis l'après-guerre, et que l'idée de prendre le risque d'un éventuel conflit dans lequel on serait engagé malgré soi, ça reste une idée qui est très très mal comprise par les Japonais d'une manière générale.
Robert Dujarric, vous partagez ce que vient de dire Valérie Niquet?
Oui, je crois qu'on vit entièrement dans une bulle, parce que nous, ce qui nous intéresse sont les questions de défense, mais 95% de la population se préoccupe avant tout des questions économiques, sociales. Je crois qu'il y a aussi la question de savoir, est-ce que, dans quelles circonstances le Japon serait-il prêt à participer à des opérations militaires hors invasion du pays? Par exemple, une guerre à Taïwan. Maintenant, je pense que les États-Unis probablement n'interviendraient pas non plus, mais même si les États-Unis intervenaient, est-ce que le Japon y participerait? La version officielle des supporters de l'Alliance aux États-Unis, c'est de dire oui, évidemment, les Japonais sont nos alliés, ils sont fiables. Je parlais la semaine dernière avec un officier de marine américain qui me disait les Japonais ne se battront jamais. Et donc ça, il y a évidemment un point d'interrogation à mettre là-dessus. Le Japon a économiquement les capacités de dépenser deux ou trois fois plus. C'est-à-dire l'Italie, dans les années 70, c'était à 3%, 3,5% de PIB. Le Japon est plus riche que l'Italie, mais politiquement, on en est loin. Il y a un immense problème démographique aussi. La guerre, c'est quelque chose qui doit être fait par les jeunes, c'est qui relève des jeunes. Il y a de moins en moins de jeunes. Les forces armées japonaises n'ont pas assez de femmes, enfin ne recrutent pas assez. Ça, c'est un autre problème. On ne recrute pas les étrangers. On est à 50% des quotas de recrutement. Donc, il y a un potentiel, mais je crois que là encore, quand on sort de la bulle de ceux qui pensent aux questions de défense qui suivent ça, il faut rester très prudent. Alors, est-ce que vraiment une guerre sino-taïwanaise, que ça changerait l'orientation des Japonais? On peut aussi imaginer qu'ils se disent, après tout, on peut vivre à l'ombre de la Chine. Il ne faut pas oublier que dans cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Japon est en fait entre les deux, parce que l'économie japonaise bénéficie énormément de ses relations économiques avec la Chine. Elle n'est pas vraiment en concurrence sur les marchés étrangers avec la Chine, qui ne produisent pas les mêmes produits. S'il y a des barrières douanières anti-chinoises, ça peut aussi gêner les entreprises japonaises qui ont énormément de composants qui viennent de Chine. Donc, je crois qu'il faut être très, très prudent là-dessus.
En résumé, Guy Bourdelamotte, le Japon n'entend pas changer ses habits de soft power, malgré l'évolution à la fois de la situation internationale et de la situation régionale. Et Robert Dujarric permet de faire la transition avec la relation entre le Japon et la Chine. On sent effectivement une volonté d'apaisement des relations avec la Chine, au moins sur le plan économique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réunion, par exemple, un sommet récemment entre la Corée du Sud, le Japon, la Chine. C'est vrai que la production régionale est très intégrée depuis les années 90. Donc, même si, avec le souci en matière de sécurité économique qui a émergé depuis 2019, le Japon a cherché à faire plus attention, à faire du reshoring, ce genre de choses, et du friendshoring, comme on a dit, c'est-à-dire se tourner vers d'autres alliés, etc. Là, les barrières douanières frappent même les autres États, comme le Vietnam. Donc, les chaînes de production sont un peu complexifiées. Et tout le monde est face à cette difficulté que la Chine est très centrale pour toutes les économies de la région, un partenaire commercial de premier plan. Est-ce que pour autant les intérêts ont changé? Non, et la relation avec la Chine n'a pas changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a ces mêmes problèmes de sécurité. Donc de fait, le Japon est face à un problème, c'est que son très très précieux partenaire commercial est aussi son principal problème stratégique, enfin, et de sécurité. Mais ça n'a pas changé. En fait, c'était déjà le cas avant Donald Trump. Donc, et déjà, se posait la question de savoir comment aborder la Chine, comment l'amener à plus de coopération, et donc comment exercer une pression sur elle pour la contenir stratégiquement, tout en l'incitant à jouer davantage les jeux, le jeu de la coopération internationale. Mais dans le domaine économique, la Chine n'a pas joué le jeu de l'Organisation mondiale du commerce du tout. Elle en a pris ce qu'elle voulait. Dans le domaine stratégique, un tout petit peu plus. On l'a vu se rallier aux accords, par exemple, contre la prolifération. Enfin, on l'a vu, et d'ailleurs pénétrer les organisations internationales et puis se les approprier d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, y gagner en influence du fait de l'augmentation de ses contributions financières à mesure que sa puissance croissait, ce qui est à la fois présente des inconvénients. Donc, la relation avec la Chine, fondamentalement, n'est pas remise en question totalement. Il est certain que la Chine, elle, change un peu d'attitude, c'est-à-dire qu'elle est plus réceptive, bien sûr, y compris vis-à-vis des européens. Elle fait des appels du pied, elle est plus réceptive, elle cherche à améliorer ses relations donc avec des États avec lesquels elle était en difficulté. Mais enfin, l'Europe est dans la même situation que le Japon, au sens où la prise de conscience qui a eu lieu, et en partie quand même sous le premier mandat Trump, et grâce à lui, au sens où c'est lui qui a attiré l'attention sur les problèmes avec Huawei, les problèmes de sécurité que pouvait poser le fait de placer un réseau de cinquième génération de téléphonie entre les mains d'une entreprise contrôlée par le gouvernement chinois plus ou moins directement. Donc, la prise de conscience qui a eu lieu à ce moment-là, le revirement de 40 ans de politique chinoise qui a eu lieu sous Donald Trump est toujours là. C'est-à-dire, la prise de conscience a eu lieu et maintenant les Européens, comme les Japonais, sont conscients des difficultés, des problèmes de sécurité que pose la Chine. Donc ça, je crois qu'on ne va pas revenir en arrière. Sur ce qu'on disait avec Taïwan, c'est vrai que bien sûr, que ferait le monde en fait. Quand on voit la manière dont Robert Dujarric disait très justement, personne n'a réagi suffisamment, sinon la guerre aurait été, Poutine aurait dû être liquidé en 3 mois.
Sur l'Ukraine.
Que se passerait-il avec Taïwan ? Les Européens, est-ce qu'ils bougeraient le petit doigt alors qu'ils n'ont pas été fichus de se mettre en ordre de bataille rapidement et de se concerter, de s'organiser pour faire front commun dans les 15 jours qui ont suivi cette agression ukrainienne. Donc, avec Taïwan, la question se pose tout à fait. Je crois que le gouvernement taïwanais est assez conscient que, de fait, il doit montrer que lui-même est plus préoccupé par les questions de défense, ce qu'il s'efforce de faire, mais un peu comme le Japon, on est dans une société avec Taïwan, et c'est Valérie Niquet, je crois, qui peut en parler un peu mieux que moi, on est dans une société où la population n'a pas envie de se battre. Donc, ce qui défend, ce qui préserve Taïwan, c'est ses capacités en matière de semi-conducteurs, qui en font une plaque tournante. Mais dans quelle mesure est-ce que ça va pouvoir... Si la population elle-même n'a pas envie de se mobiliser pour rester indépendante et protéger ses libertés, comme un peu à la manière d'Israël, par exemple, dont on voit que c'est une société en combat permanent, eh bien, on peut se demander si elle peut durablement, en effet, se reposer sur les relations avec ses partenaires. Et donc, le Japon, lui, en effet, maintient toujours une ambiguïté, comme tous les États, d'ailleurs, sur Taïwan, parce qu'on ne peut pas donner des assurances trop claires, de toute façon, à Taïwan, que de fait, quoi qu'elle fasse, elle serait défendue. Donc on ne sait pas ce que ferait le Japon, de fait, même s'il s'est doté des possibilités d'intervenir au profit de ses alliés. Taïwan, pour le moment, n'étant pas un État, ne peut pas bénéficier de toute façon directement à ce stade de ce dispositif législatif. Donc, de fait, l'incertitude est totale.
Alors, je vais vous passer la parole, Valérie Niquet. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais qu'on dise quelques mots avant la fin de cette émission. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. C'est l'alliance entre la Russie et la Chine, est-ce que c'est une inquiétude supplémentaire pour le Japon? Et on n'a pas beaucoup parlé de l'Indo-Pacifique et j'aimerais savoir le rôle que joue l'Indo-Pacifique dans l'évolution de la politique étrangère du Japon, Valérie Niquet.
Alors sur la Russie, les choses sont assez claires. À l'époque de Shinzo Abe, il y a 2 objectifs pour le Japon. Il y en a qui est strictement de politique intérieure et de jeu même politicien au sein du PLD. C'est la question des îles Kouriles, qui sont un élément que le Japon a gardé à l'esprit et qui explique en partie pourquoi il voulait conserver une forme de dialogue avec la Russie. Le deuxième élément, qui à mon avis n'a pas totalement disparu, même si les illusions japonaises en la matière se sont quand même beaucoup modifiées, c'est qu'il fallait tout faire pour éviter qu'il y ait une sorte de rapprochement trop étroit entre la puissance russe et la puissance chinoise. Alors évidemment, après le partenariat sans limite, tout ça semble bien vain, mais cette idée est toujours présente, en tout cas chez certains analystes au Japon et même au sein d'une partie du ministère des Affaires étrangères. Et là, on voit qu'avec ce rapprochement, dont on ne sait pas s'il va déboucher sur quelque chose, entre les États-Unis et la Russie, certains peut-être ont l'idée de finalement revenir à une politique russe un peu moins intransigeante pour à nouveau obtenir ce coin enfoncé entre la puissance chinoise et la puissance russe. Mais tout ça reste évidemment très complexe et le Japon n'a pas les cartes en main en fait. Il est relativement suiviste en la matière, comme malheureusement sur beaucoup de situations internationales. L'Indo-Pacifique, on en a parlé au début de l'émission. Ça reste un élément du discours et de l'engagement du Japon sur la scène internationale, d'autant plus que ça passe par toute une série d'éléments qui sont des éléments justement non militaires, mais il n'y a pas que, il y a aussi des coopérations militaires qui se sont mises en place avec des pays comme par exemple les Philippines ou le Vietnam. Le Japon met beaucoup l'accent sur ce qu'il peut offrir aux pays de l'Indo-Pacifique, notamment l'Asie du Sud-Est, mais aussi les pays africains, pour essayer de démontrer que ce qu'il apporte est beaucoup plus solide à long terme et beaucoup plus profitable à ces pays que ce que la Chine peut offrir. C'est une stratégie qui peut avoir un certain succès dans la mesure où Pékin, qui traverse aussi des problèmes économiques graves, a évidemment moins de moyens d'action que par le passé, même si évidemment ils en ont encore énormément. Et donc l'attractivité de la Chine, qui repose essentiellement sur ses capacités de décaissement facile et sans condition, pourrait baisser face à un Japon qui tente de projeter et d'offrir une image un peu plus responsable et durable des aides qu'il apporte. Donc l'Indo-Pacifique dans son ensemble, à la fois d'un point de vue stratégique, de sécurité, mais aussi économique et en forme d'aide au développement, reste un élément essentiel pour le Japon.
Alors, je vais laisser à Robert Dujarric quelques minutes pour conclure cette émission. Je ne sais pas si vous souhaitez revenir sur la relation Japon-États-Unis. Dans l'article, d'ailleurs, dans la Revue internationale et stratégique, vous posez la question de savoir, bien finalement, que sont l'un pour l'autre, alliés, partenaires ou pairs, P-A-I-R-S. Robert Dujarric.
Je pense qu'il y a deux questions. Il y a de savoir, est-ce que ce qu'a fait Trump depuis quelques mois, c'est dans un sens un soubresaut et est-ce qu'on va revenir à des États-Unis normaux tels qu'on les a connus depuis 1945 ou est-ce que c'est la fin de la Pax Americana ou pas? Je crois qu'on n'est pas encore fixé, mais il y a quand même un risque considérable que ce soit sa fin, parce que c'est très difficile de revenir en arrière. Et deuxièmement, la question, c'est comment est-ce que le Japon réagit? Est-ce qu'il se dira finalement on peut survivre, avoir des relations semi-normales avec la Chine, ou est-ce que ça crée une espèce de sursaut qui se disent voilà, maintenant on est tout seul, ou du moins on n'a plus d'alliés, il faut vraiment devenir une vraie puissance, rester libéral et démocratique, mais investir plus dans sa défense, ses alliances, et essayer dans le sens de créer un concert des démocraties libérales où les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'ils ont joué. Et je crois qu'on n'est pas encore fixé, et on ne le saura pas pendant quelques temps, parce que les 90 jours dont Trump parle, Trump a capitulé non pas face au Japon et aux Européens, il a capitulé face au marché des obligations qui ne voulait plus financer la dette américaine. Et dans 90 jours, s'il revient sur ses promesses et qu'il dit « voilà, on revient à des droits de douane très élevés », se reposera le problème du financement de la dette américaine. Donc, en fait, il ne peut pas revenir à une politique hyper agressive en matière de douane parce qu'il est face au problème de Liz Truss. Mais on ne sait pas exactement comment ça évoluera non plus.
Guy Bourdelamotte, en quelques secondes.
Je crois que l'Indo-Pacifique reste très important, de fait, pour le Japon, parce que, justement, c'est cette approche collective qu'il illustre dans la politique étrangère et de défense. Et ça, je ne pense pas que ce soit mis en cause. Je pense qu'on verra Donald Trump investir à nouveau dans le Pacifique Sud et d'une autre manière. Je crois que la question qui se pose, enfin, que pose indirectement Donald Trump, et je ne sais pas si on va accepter de s'engager dans la réflexion, c'est quel type de société est-ce qu'on veut? Des sociétés où, disons, qui préservent l'emploi puisqu'ils cherchent à réindustrialiser au détriment du coût, des coûts, ou bien les sociétés telles qu'on les a mises en place, c'est-à-dire avec des coûts faits pour les consommateurs, mais moins d'emplois.
Merci Guy Bourdelamotte. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon et autrice de La démocratie au Japon aux éditions ENS et Le Japon, un leader discret aux éditions Erol. Merci aussi à Valérie Niquet, directrice du programme Japon à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de Le Japon en 100 questions qui vient de paraître dans l'édition Poche Texto des éditions Talendier, et Robert Dujarric, co-directeur de l'Institute of Contemporary Asian Studies à Temple University Japan. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes sur RFI. Dans quelques instants, vous retrouverez L'art de raconter le monde et le magazine Idée. Mais dans l'immédiat, le journal.